Chapitre 35 Avec les Tchouedankal. Sans un regard en arrière, Rand poussa sa monture sur le pont de pierre blanche qui, à partir de la porte de Kemlin, conduisait vers le nord. Dans un ciel sans nuages, le soleil pointait à peine à l'horizon et il faisait un froid de gueux, avec ce vent toujours qui gonflait les manteaux comme des voiles. Par bonheur, Rand ne sentait pas le froid. Ou alors, comme un phénomène lointain et sans rapport avec lui. Intérieurement, il était plus glacé que le pire hiver de l'histoire. En venant le chercher dans sa cellule, les gardes avaient été surpris de le voir afficher un petit sourire, qu'il arborait toujours d'ailleurs. Avec le reste de Saïdar de son puits, Nineveh avait guéri toutes les blessures du jeune homme. Pourtant, l'officier casqué qui se campa au milieu du chemin, au-delà du pont, le regarda comme si son visage était toujours boursouflé et violacé. Katsuane se pencha sur sa selle, dit quelques mots, puis tendit au militaire une feuille de parchemin pliée. Sourcils froncés, l'homme lut le texte, puis releva la tête et, perplexe, balaya du regard la colonne de femmes et d'hommes qui attendaient derrière la Aes Sedai. Enfin, il baissa de nouveau les yeux sur le texte, le relut en silence en remuant les lèvres, comme pour vérifier à deux fois chaque mot, et ne cacha pas sa surprise. Signé par les 13 conseillères et portant leur sceau, l'ordre indiquait qu'il était inutile de fouiller les chevaux de bas et de s'assurer que les liens des épées étaient intacts. Les noms de ces étrangers devaient être effacés de tous les registres, après quoi il faudrait brûler le document. Aucune Aes Sedai, pas le moindre champion, et pas l'ombre d'une Ata Nyeré n'était venue à Pharmading.
« C'est fini, Rand !»
dit Mine, en venant placer sa jument marron encore plus près du hongre gris de son homme. Une compétition discrète entre elle et Nineveh, qui ne lâchait pas l'âne d'un pouce. Laissant bâiller les pans de son manteau, la jeune femme tapota le bras de Rand. L'inquiétude visible sur son visage se reflétait dans le lien.
« Tu n'as plus besoin d'y penser. »«
Mine, je suis très reconnaissant à Pharmading. » Comme à l'époque où il commençait à canaliser, la voix de Rand était distante et impersonnelle. Pour sa compagne, il aurait pu faire l'effort de l'adoucir, mais ça semblait hors de sa portée. « Dans cette ville, j'ai trouvé tout ce que je cherchais. » Une épée dotée de mémoire aurait sans doute éprouvé de la reconnaissance pour les flammes de la forge. Quand l'officier leur fit signe d'avancer, Rand lança son cheval au trot, fila vers les collines, et ne jeta pas un regard en arrière, avant de s'enfoncer dans la forêt. Sur la route qui serpentait entre des pins, les seuls arbres à arborer encore leur feuillage en cette saison, Rand sentit soudain la source revenir. Comme si elle se trouvait à la périphérie de sa vision, elle pulsait, l'appelait, et l'emplissait d'une faim dévorante. D'instinct, il s'y connecta, et rempli de Saïdin le vide qui s'était creusé en lui pendant son séjour à Pharmading. Le feu et la glace se déversèrent dans ses veines, en même temps que la souillure qui, chaque fois, réveillait la plus ancienne de ses deux blessures. Vacillant sur sa selle, l'estomac retourné et la tête embrumée, il tenta de maîtriser le torrent, qui menaçait de dévaster son esprit, et l'avalanche, qui risquait d'ensevelir son âme. La partie masculine du pouvoir ne connaissait pas la compassion, et encore moins la pitié. Contre cette agression, un homme se battait ou mourait. Dans son dos, Rand sentit les trois achamans se gorger de pouvoir, comme s'il venait de trouver de l'eau après une longue errance dans le désert. Dans son coin, l'austérine soupira de soulagement.
« Tu vas bien ?»
demanda Mine, son cheval si près de celui de Rand que leurs jambes se touchèrent.
« Tu as l'air malade. Je me porte comme un charme. »
mentit Rand. Le mensonge ne concernait pas seulement son flanc stigmatisé. Enfin en acier, grâce à ses dernières mésaventures, il n'était pourtant pas encore assez dur. Mine, il aurait voulu l'envoyer à Kemlin sous la protection d'Alivia. Si la Séan Chanyan était destinée à l'aider à mourir, autant lui faire confiance. Dans sa tête, Rand avait préparé un discours imparable. Dès que ses yeux se posèrent sur Mine, il n'eut pas la force de le prononcer. Tirant sur les rênes de son cheval pour le faire tourner à droite, il s'adressa à Katsuane par-dessus son épaule.
« C'est ici. »
Mine le suivit, bien entendu, comme tous les autres. La veille, après sa libération, Arin l'avait quitté des yeux, juste le temps de dormir quelques heures. S'il s'était écouté, Rand aurait laissé la Tan Mieré en arrière, mais Katsuane lui avait donné son premier conseil éclairé.
« Mon garçon, tu as conclu un marché avec elle, ce qui revient à signer un traité, voire à donner sa parole d'honneur. Alors tiens tes engagements, ou annonce que l'accord ne tient plus. Sinon, tu ne vaudras pas mieux qu'un escroc. »
Direct, sans fioriture, et sans la moindre ambiguïté, sur l'opinion de Katsuane au sujet des escrocs.
Rand n'avait jamais promis de suivre ses conseils, mais après qu'elle se fût en fait tirer l'oreille pour l'aider, il eût été maladroit de la rembarrer si tôt. Du coup, la maîtresse des vagues et les deux autres à admirer chevauchaient avec Alivia, devant Vérine, les cinq autres sœurs qui avaient juré allégeance au dragon réincarné, et les quatre qui formaient la suite de Katsuane. Des compagnes qui passaient bien avant Rand aux yeux de la légende, ça ne faisait aucun doute. Pour quiconque d'autre que le jeune homme, rien ne distinguait l'endroit où il avait creusé avant d'entrer à Pharmading. Lui, il voyait un rayon vertical briller comme une lanterne à l'emplacement de sa cachette. Cela dit, un autre homme capable de canaliser le pouvoir serait sans doute passé à côté sans le remarquer. Rand ne prit pas la peine de mettre pied à terre. Avec des flux d'air, il dispersa l'épaisse couche de feuilles mortes et de brindilles, puis creusa la terre, jusqu'à ce qu'il découvre un long paquet étroit fermé par des lanières de cuir. Tandis qu'il faisait léviter Kalendor jusqu'à sa main, des mottes de glaise tombèrent de l'emballage. Rand n'avait pas osé emporter l'arme à Pharmading. Sans fourreau, il aurait dû la laisser au poste de garde du pont, une dangereuse balise, en permanence susceptible d'annoncer sa présence. En ce monde, il n'existait probablement pas une autre épée de cristal, et bien trop de gens savaient que le dragon réincarné en portait une. Malgré cette précaution, il s'était quand même retrouvé dans une étroite cellule humide. Non, il ne fallait plus y penser. C'était fini. Dans un coin de son esprit, l'oustérine haletait. Après avoir glissé Kalendor sous la sangle de sa selle, Rand fit volter sa monture pour se retrouver face à ses compagnons. La queue plaquée contre la croupe, pour la soustraire aux caprices du vent, les chevaux restaient calmes, même s'ils devaient être impatients et galoper, après un si long séjour dans des écuries. Comparé au terrain gréal précieux qu'il contenait, le sac de cuir accroché à l'épaule de Ninevé faisait un peu miteux. Alors que le moment fatidique approchait, l'ancienne sage-dame caressait distraitement le sac, sans bien mesurer ce qu'elle faisait. Et si elle s'efforçait de cacher sa peur, son menton tremblant la trahissait. Sa capuche abaissée, Katsuane regardait Rand, impassible. De temps en temps, une bourrasque plus forte que les autres faisait frémir les ornements d'or piqués dans son chignon.
« Je vais purifier la moitié masculine du pouvoir, » annonça Rand. « Éliminer la souillure. »
En veste et manteau ordinaire, comme les autres champions, les achamans échangèrent des regards brillants d'excitation. En revanche, une sorte de frisson passa dans les rangs des Aes Sedai. La frêle Nesune alla même jusqu'à lâcher un petit cri. Katsuane ne broncha pas.
« Avec ça ?»
demanda-t-elle, en désignant le paquet glissé sous la sangle de celle de Rand.
« Non, avec Lecho et Dankal, »
répondit le jeune homme. Le nom était un autre cadeau de l'oustérine, découvert dans son esprit comme s'il y avait toujours été.
« On croit qu'il s'agit d'immenses statues. Des Sa en Gréal, enterrés l'un au Kairien et l'autre à Tremalking. »
Entendant le nom de cette île du peuple de la mer, Arin releva brusquement la tête, faisant intinabuler les médaillons de sa chaîne nasale.
« Des artefacts trop gros pour être déplacés. Mais je possède deux terrains gréales appelés des clés d'accès. Avec eux, on peut utiliser les Choe Dankal, où qu'on soit dans le monde. »«
C'est dangereux, » marmonna l'oustérine. « De la folie. »
Rand ignora le spectre. Pour l'heure, seul Katsuane importait. Le cheval de l'Aes Sedai dressa une oreille. Une monture, un rien plus réactif que sa cavalière, aurait-on dit.
« Un de ces Sa'en Gréal est fait pour une femme, »
rappela Katsuane.
« Qui pressens-tu pour t'en servir ? Ou tes clés te permettront-elles d'utiliser les deux ? Ninevé se liera à moi. »
La seule Aes Sedai à qui Rand se fiait. Une sœur, certes, mais aussi l'ancienne sage-dame de Champ des Mondes. Qui aurait pu être plus fiable ? La femme de l'âne sourit et hocha la tête. À présent, son menton ne tremblait plus.
« N'essaie pas de m'arrêter, Katsuane, »
dit Rand. Sans répondre, l'Aes Sedai le dévisagea, pensive et calculatrice.
« Katsuane, excuse-moi, mais... »
Kumira fit faire un pas en avant à sa monture.
« Jeune homme, as-tu pensé au risque d'échec et mesuré les conséquences si tu ne réussis pas ?»« Je dois poser la même question, »
intervint Nesune, très droite sur sa selle et le regard rivé sur Rand.
« Selon toutes mes lectures, un échec avec ces angréales peut provoquer un désastre. Ensemble, ces artefacts sont assez puissants pour briser le monde comme un œuf. »
« Oui, comme un œuf, » renchérit l'oustérine. « On n'a jamais essayé. C'est de la folie. Tu es dingue. »
« Aux dernières nouvelles, »
dit Rand, s'adressant aux sœurs.
« Un achaman sur 50 perd la raison et doit être abattu comme un chien enragé. Et la situation doit s'être détériorée. C'est vrai,
Ce que je veux faire est risqué, mais on n'a rien sans rien. Si je ne bouge pas, de plus en plus d'hommes deviendront fous, et un jour, ils seront trop nombreux pour qu'on puisse les éliminer facilement. Vous voulez attendre l'ultime bataille, avec 100 Hachamans fous furieux autour de vous? Ou 200? Ou 500? Avec moi dans le lot? Combien de temps le monde survivrait-il à ça?
Rand parlait plus particulièrement aux deux sœurs marron, mais en regardant Katsuane, dont le regard ne le quitta pas un instant. Il devait la convaincre, mais s'il n'y parvenait pas, il ne tiendrait pas compte de son avis, et tant pis pour les conséquences. Ensuite, si elle tentait de l'arrêter, en lui, le Saïdin bouillonnait.
« Tu vas le faire ici ?»
demanda Katsuane.
« Non, à Shadar-Logoth. »
Aes Sedai acquiesça.
« Un lieu approprié, »
convint-elle.
« Si nous devons prendre le risque de détruire le monde. »
Loustérine cria à s'en briser les cordes vocales qu'il n'avait plus. Puis sa voix se fit de plus en plus faible dans la tête de Rand, comme s'il était en train de fuir. Mais il n'y avait aucun refuge pour lui, ni pour quiconque d'autre. Le portail qu'ouvrit Rand ne donnait pas directement sur Shadar-Logoth, mais sur le sommet déboisé d'une colline à quelques lieues de la ville. Sur le sol rocheux à demi couvert de neige, les sabots des chevaux résonnaient comme autant de glas. Quand il eut mis pied à terre, Rand observa un instant les lointains contours de la cité jadis appelée Aridol. Un alignement de tours au sommet tronqué et de dômes dévastés qui auraient été sinon assez grands pour abriter tout un village. Rand ne regarda pas longtemps. Sous un ciel matinal limpide, les dômes ne brillaient pas comme ils auraient dû, à croire que quelque chose projetait une ombre géante sur ce champ de ruines. Même à cette distance, la seconde blessure sur son flanc se mit à pulser douloureusement. La cicatrice laissée par la dague de Padanfein, une arme venue de Shadar-Logoth, pulsa elle aussi, mais pas au rythme de la première. On eût presque dit un contre-champ. Comme c'était prévisible, Katsuane prit le commandement et distribua des ordres brefs et secs. Dès que c'était possible, les Aes Sedai se débrouillaient pour diriger, et Rand ne fit rien pour empêcher ça. Lan, Netan et Bassané s'enfoncèrent dans la forêt pour l'explorer. Les autres champions attachèrent leurs chevaux à des branches basses. Min se pencha sur sa selle et posa un baiser sur les yeux de Rand. Puis, sans un mot, elle alla rejoindre les hommes. Dans le lien, Rand reconnut de l'amour, bien sûr, mais aussi une confiance aveugle qui le stupéfia. Avec un grand sourire, Eben vint prendre les rênes de la monture du jeune homme. Entre son nez et ses oreilles, il n'y avait pas beaucoup de place pour le reste de son visage. Mais il était à présent un jeune garçon élancé, plus un adolescent pâteau.
« Seigneur dragon, canaliser sans la souillure sera merveilleux !»
Quel enthousiasme! Rand aurait donné 17 ans à ce garçon, mais il était peut-être plus jeune.
« Dès que je pense à cette horreur, ça me donne envie de vomir !»
ajouta Eben en s'éloignant, toujours ravi. Quand le pouvoir se déversa en Rand, l'immondice de la souillure vint en même temps. Une putréfaction ignoble qui charriait avec elle la folie et la mort. Katsuane réunit les sœurs autour d'elle, ainsi que la régente des vents et Alivia. Quand Arin se plaignit d'être exclu, la légende d'un index pointé lui intima de s'éloigner sans tarder. Son maître de la lame, Moad, fit asseoir Arin sur un rocher et lui tint un discours apaisant. Pourtant, il ne cessa de sonder les arbres environnants, la main jamais très loin de la poignée d'ivoire de son épée. Venant de l'endroit où étaient attachés les chevaux, Jahar approchait, tout en déballant Kalandor. L'épée de cristal, avec sa longue poignée claire et sa lame très légèrement incurvée, brillait sous les rayons pourtant faiblards du soleil. Captant un geste impérieux de Myrise, la chamane champion se hâta d'aller rejoindre son Aes Sedai. Damer était avec la sienne, même chose pour Eben. Katsuane n'avait pas demandé l'autorisation d'utiliser Kalandor. Bon, ça pouvait passer, pour une fois. Une seule fois, oui.
« Cette femme ferait perdre patience à une pierre !»
grommela Nineveh en rejoignant Rand. D'une main, elle tenait la bandoulière de son sac, et de l'autre, elle tirait sur la natte qui dépassait de sa capuche.
« Qu'elle aille au fond de la fosse de la perdition !»« Rand, tu es sûr que Min ne se trompe jamais ?»« Une toute petite fois, ce serait... »« Bon, d'accord, je n'insiste pas. »« Mais quand même. »« Tu voudrais bien cesser de sourire comme ça ? Tu rendrais un chat nerveux. »« On devrait commencer. »
dit Rand. L'ancienne sage-dame sursauta.
On ne devrait pas attendre Katsuane ?
Personne n'aurait pu deviner qu'elle venait de vouer la sœur à la fosse de la perdition. Au contraire, elle semblait soucieuse de ne pas la brusquer.
Elle fera ce qu'elle fera, Nineveh. Avec ton aide, je vais faire ce qu'il faut.
Ninevé hésita, serrant le sac contre son flanc. Alors qu'elle jetait des regards inquiets aux femmes groupées autour de Katsuane, Alivia se sépara des autres et vint rejoindre Rand et sa vieille amie.
« Katsuane dit que tu dois me donner tes terres en Gréal, »
annonça-t-elle.
« Non, ne discute pas, nous n'avons pas le temps. Si tu te lies à Rand, ils ne te serviront à rien. »
Ninevé foudroya les sœurs du regard, mais elle obéit en râlant, se défaisant de tous ses artefacts, y compris la fameuse ceinture. Non sans hésiter, elle se défie aussi de son étrange bracelet-bague.
« Prends-le, »
soupira-t-elle.
« Si je dois utiliser le plus puissant sangréal du monde, je n'aurai pas besoin d'un simple angréal. Mais tu me rendras tout ça, c'est bien compris ?»« Je ne suis pas une voleuse !»
s'indigna Alivia. Elle glissa les bagues au doigt de sa main gauche. Bizarrement, l'angréal qui semblait fait sur mesure pour Ninevé s'adapta parfaitement à sa main, pourtant plus longue. Les deux femmes en parurent très surprises. Rand s'avisa soudain qu'elle n'envisageait pas un instant la possibilité qu'il échoue. Une confiance qu'il aurait aimé partager. Mais il devait agir quand même.
« Tu comptes attendre toute la journée ?»
demanda Ninevé, alors qu'Alivia s'en retournait vers le groupe de sœurs. S'asseyant sur un rocher gris de la taille d'un banc, l'ancienne sage-dame tira sur les pans de son manteau, saisit le sac, le posa sur ses genoux et l'ouvrit. Rand s'assit en tailleur en face de la jeune femme. Les clés d'accès, deux statuettes blanches d'un pied de haut, tenaient chacune à la main une sphère de cristal. Ninevé tendit à Rand l'homme barbu vêtu d'une longue tunique, puis elle posa la femme devant elle, à ses pieds. Sur le visage des deux sculptures, on voyait la sérénité, la force et la sagesse, qui sont souvent l'apanage de la maturité.
« Pour que je puisse me lier avec toi, Rand, tu dois t'ouvrir à la source, comme si tu allais t'y connecter. »
Avec un soupir, Rand posa sa statue sur le sol et se coupa du saïdin. La glace et le feu disparurent, tout comme la souillure, et la vie redevint une toute petite chose, sans beaucoup de relief et de couleur. Pour faire face à la nausée qui le submergerait, quand il se connecterait de nouveau à la source, Rand posa les mains sur le sol. Mais un vertige tout à fait différent le frappa. Une fraction de seconde, un visage fou apparut devant ses yeux, lui cachant celui de Ninevé. Des traits d'homme, presque reconnaissables. Si une chose pareille arrivait alors qu'il manipulait le Saïdin, Ninevé se pencha vers lui, l'air inquiète.
« Maintenant !»
lança Rand. Par l'intermédiaire de la statue masculine, il s'ouvrit à la source, mais sans s'y connecter. Restant à la frontière, il dut s'empêcher de crier quand des flammes obscures l'enveloppèrent, tandis qu'un vent mauvais projetait sur lui des grains de sable gelés. Voyant Ninevé prendre une grande inspiration, il comprit que son calvaire avait duré à peine quelques secondes. Mais il aurait juré avoir souffert pendant des heures. Le Saïdin déferla en lui, mélange de feu, de glace et de salissure, et il se révéla incapable de contrôler le moindre flux. Fut-il aussi fin qu'un cheveu ? Le torrent se déversait de son corps pour passer dans celui de Ninevé. Le voir couler ainsi, sentir les marées piégeuses et les sables mouvants, capables de le détruire en une fraction de seconde, tout ça sans pouvoir rien combattre ou au minimum contrôler, se révéla une torture. Puis Rand s'aperçut qu'il avait conscience de la présence de Ninevé, presque comme il sentait celle de Mine dans le lien. Mais une seule pensée l'obsédait. Des torrents de Saïdin se déversaient en lui et de lui, sans qu'il ait le moindre moyen de réguler le processus. Tremblante, Ninevé prit une inspiration hésitante.
« Comment peux-tu supporter ça ? »
demanda-t-elle.
« Ce chaos, cette fureur, cette destruction. À présent, tu vas devoir essayer de contrôler les flux pendant que je... »
Avide de retrouver son équilibre dans le cadre de son éternelle guerre contre le Saïdin, Rand fit ce que lui demandait l'ancienne sage-dame, qui poussa un petit cri et sursauta.
« Tu étais censé attendre jusqu'à ce que... »
commença-t-elle, agressive. Elle changea de ton, passant à un agacement plus coutumier.
« Bon, au moins c'est fini. Pourquoi me regardes-tu avec ces grands yeux ? C'est moi qui viens de me faire arracher la peau. »«
Le Saïdar !»
murmura Rand, émerveillé. C'était si différent. Comparé au bouillonnement du Saïdin, le Saïdar était un fleuve tranquille et majestueux. Quand il plongea dans ses eaux, Rand dut aussitôt lutter contre des courants qui tentaient de l'entraîner loin de la rive, puis contre des tourbillons qui menaçaient de le tirer jusqu'au fond. Plus il résista, et plus ses forces gagnèrent en puissance. Alors qu'il venait à peine d'essayer de contrôler le Saïdar, il eut le sentiment de se noyer dans ses profondeurs, avalé par l'éternité. Ninevé l'avait prévenu, lui indiquant le moyen de s'en sortir. Mais face à de si étranges perspectives, il ne l'avait pas vraiment cru. Au prix d'un gros effort, il parvint à cesser de lutter contre les courants. Aussitôt, le fleuve redevint paisible. La première difficulté, combattre le Saïdin, tout en s'abandonnant au Saïdar. Le premier obstacle et la première clé pour accomplir la mission qu'il s'était donnée. Les moitiés féminines et masculines de la source authentique, à la fois semblables et radicalement différentes, s'attiraient et se repoussaient. Alors qu'elles travaillaient ensemble pour faire tourner la roue du temps, elles se combattaient sans pitié. La souillure de la moitié masculine avait son opposé, une image inversée de deux entités jumelles. Sur le flanc de Rand, la blessure infligée par Ishamael pulsait en rythme avec la souillure, et le stigmate dû à la dague de Padenfein battait en harmonie avec la force maléfique responsable de la ruine d'Aridol. Péniblement, mais en se forçant à ne rien brusquer, Rand utilisa l'immense et peu familière puissance du Saïdar comme un guide destiné à le conduire où il voulait. Puis il tissa une sorte de conduit qui touchait d'un côté la moitié masculine de la source et de l'autre les premières ruines de la distante cité. Pour que ce soit efficace, il fallait que ce tunnel soit composé de Saïdar épargnés par la souillure. Et si tout se passait bien, un conduit de Saïdin exploserait peut-être quand la souillure en suinterait. Le conduit, c'était l'image que se représentait Rand, alors qu'il s'agissait de tout à fait autre chose. Le tissage ne prit pas la forme qu'espérait Rand. Même si le Saïdar avait une volonté propre, le construct se dota de spirales et de circonvolutions qui incitaient Rand à penser à une fleur. Il n'y eut rien de plus à voir, pas l'ombre d'une déferlante venue du ciel non plus. La source était nichée au cœur même de la création. On la trouvait partout, y compris à Shadar Logoth. Couvrant de distance que Rand lui-même n'aurait pas imaginé, le conduit n'avait pas vraiment de longueur. Il fallait que ce soit un conduit, quelle que soit son apparence, parce que si ce n'était pas le cas... Puisant du Saïdin, il le combattit, puis le maîtrisa, une danse mortelle qu'il connaissait à la perfection, et le força à se mêler au tissage de Saïdar. Le miracle se produisit, mais le Saïdin et le Saïdar, ses jumeaux antagonistes, ne pouvaient pas fusionner. Se recroquevillant sur lui-même, le Saïdin tenta de s'éloigner de son double inversé, et le Saïdar s'efforça de le repousser, en le comprimant, ce qui accéléra son cours. Un flux de pur Saïdin, pur si on oubliait la souillure, toucha Shadar Logoth. Rand fronça les sourcils. S'était-il trompé? Rien ne se passait, sauf que... Sur son flanc, les blessures semblaient pulser plus vite. Dans la tempête de feu et de glace du Saïdin, il semblait que la souillure frémissait et se transformait. Un mouvement si léger que Rand ne l'aurait probablement pas remarqué s'il n'avait pas été concentré justement pour repérer ce type de phénomène. Un battement d'ailes de papillon au sein d'une tempête. Mais c'était déjà énorme.
« Continue !»
le pressa Nineveh. Ses yeux brillaient, comme si sentir le Saïdar en elle suffisait à la rendre heureuse. Rand puisa plus en profondeur dans les deux moitiés de la source, renforçant le conduit alors qu'il y projetait davantage de Saïdin. S'acharnant, il se gorgea de pouvoir, jusqu'à ce qu'aucun de ses efforts ne soit plus à même d'en ajouter une goutte. Submergé par ce torrent, il voulut crier, mais il n'y parvint pas, comme s'il n'existait plus vraiment. Seul le pouvoir de l'unique semblait exister encore. Nineveh gémit, mais il ne put rien pour elle. Son combat contre le Saïdin le consumait, et il ne tiendrait plus très longtemps. Tout en faisant tourner sur son index gauche sa bague au serpent, Elsa observait l'homme qu'elle avait juré de servir. Assis sur le sol, le visage fermé, il regardait dans le vide, comme s'il était incapable de voir Nineveh, la naturelle qui lui faisait face et qui brillait comme un petit soleil. Au fond, peut-être en était-il vraiment incapable. Elsa sentait les incroyables torrents de Saïdar qui circulaient en Nineveh, une quantité inimaginable. En unissant leurs efforts, toutes les sœurs de la Tour Blanche auraient à peine pu contrôler une fraction de cet océan. De quoi envier la naturelle, et se demander si une telle extase ne l'avait pas déjà rendue folle. Malgré le froid, Nineveh transpirait à grosses gouttes. Les lèvres écartées, elle fixait quelque chose, au-delà du dragon réincarné.
« Ça commencera bientôt, je le crains, »
dit Katswane. Se détournant de Rand et de Nineveh, la sœur aux cheveux grisonnants plaqua les poings sur ses hanches et balaya d'un regard perçant le sommet de la colline.
« Ce qui se passe ici se sentira à Tarvalon, et peut-être même à l'autre bout du monde. Prenez toute votre place.
« Viens, Elsa, »
dit Mérise, l'aura du Saïdar l'enveloppant soudain. Elsa se laissa entraîner dans un lien avec son austère collègue, mais elle tressaillit quand Mérise y ajouta son champion, un Achaman. Cet homme était d'une sombre beauté, mais l'épée de cristal dans sa main brillait faiblement, et Elsa sentait un puissant tumulte qui ne pouvait être que le Saïdin. Et même si Mérys contrôlait les flux, l'immondice que charriait la moitié masculine du pouvoir lui retourna l'estomac. Un tas de fumier pourrissant sous un soleil d'été lui aurait paru plus engageant. Si austère qu'elle fût, Mérys était une femme adorable. À son rictus, elle semblait elle aussi avoir envie de vomir. Partout autour d'Elsa, des cercles se formaient. Alors que Saren et Corel se liaient avec Flynn, le vieil achaman, Nessuné, Beldane et Deigan firent de même avec le jeune Hopewell. Vérine et Kumira, elles, se lièrent avec la naturelle du peuple de la mer. Après tout, elle était puissante. Et on aurait besoin de tout le monde. Une fois formée, chaque cercle quitta le sommet de la colline et s'enfonça entre les arbres dans des directions différentes. Enveloppée par l'aura du pouvoir, l'étrange naturelle appelée Alivia, bizarrement elle semblait n'avoir aucun autre nom, partit vers le nord. Une très bizarre femme, avec ses petites rides au coin des yeux et son incroyable puissance. Pour s'approprier les terres angréales qu'elle portait, Elsa redonnait beaucoup de choses. Les trois cercles et Alivia fourniraient une défense enveloppante, si c'était nécessaire. Mais l'essentiel de la protection devrait se concentrer sur le dragon réincarné, qu'il faudrait préserver à n'importe quel prix. Une mission dont Katsune se chargerait, bien entendu, même si le cercle de Mérys resterait ici pour l'épauler. Considérant le volume de Saïdar qu'elle canalisait, plus qu'Elsa et Mérys réunies, la légende devait avoir sur elle un mangréal. Pourtant, ce n'était rien comparé au pouvoir qui circulait en Kalendor. Elsa jeta un coup d'œil au dragon réincarné et inspira à fond.
« Mérys, je sais que je ne devrais pas demander, mais puis-je fusionner les flux ?»
Elsa s'attendait à devoir insister, mais sa collègue, après une brève hésitation, hocha simplement la tête. Presque aussitôt, l'expression de Mérys se fit moins dure. Parler d'adoucissement aurait été exagéré, la concernant. Du feu, de la glace et de la pourriture se déversèrent en Elsa, qui frémit de la tête aux pieds. À n'importe quel prix, le dragon réincarné devait vivre jusqu'à l'ultime bataille. À n'importe quel prix. Sur la route enneigée qui menait à Trémontienne, Barmeline se demandait si la vieille Magline, la patronne des neuf anneaux, paierait ce qu'il demandait pour l'alcool de prune qu'il transportait à l'arrière de sa charrette. À dire vrai, il n'était pas optimiste. Magline était près de ses sous, l'agneau ne valant pas grand-chose, et si tard en hiver, l'aubergiste préférait peut-être attendre le printemps pour trouver mieux. Soudain, Barmeline remarqua que la journée était particulièrement lumineuse. Midi en plein été, plutôt qu'un début de matinée en hiver. Bizarrerie suprême, la lumière semblait venir du grand trou, sur le bas-côté de la route, que les travailleurs de la ville avaient creusé avec acharnement jusqu'au début de l'année précédente. Une statue géante y était enfouie, mais le brave paysan, peu intéressé, ne s'était jamais donné la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Presque contre sa volonté, il tira sur les rênes de sa puissante jument, puis sauta de son banc et pataugea dans la poudreuse pour aller se camper au bord de la fosse. 300 pieds de profondeur pour 10 fois plus de large. Pourtant, il dut mettre une main en visière pour ne pas être ébloui. Regardant entre ses doigts, il distingua une boule brillante qui le fit penser à un second soleil. Dans la terre ? Si le pouvoir de l'unique n'était pas dans le coup, Barmeline était prêt à manger son chapeau. Avec un cri étranglé, il recula, regagna sa charrette, remonta sur son siège, agita les rênes pour stimuler Nissa, puis lui fit faire demi-tour. De retour chez lui, il ferait un sort à cet alcool de prune. Jusqu'à la dernière goutte même. Plongé dans ses pensées, Timna se promenait, sans même voir les champs en jachère qui couvraient toutes les collines environnantes, à part une cependant. Sur une grande île comme Trémalking, loin de la côte, le vent ne charriait aucune odeur iodée. Pourtant, c'était les Hata admirés qui la plongeaient dans la perplexité. Alors qu'elle était un des guides, chargé de les protéger d'eux-mêmes, si c'était possible, ces gens refusaient le paradigme de l'eau. À présent qu'ils se pâmaient tous au sujet de leur sauveur, les aider était encore plus difficile. Sur l'île, il en restait très peu. Toujours mal à l'aise quand ils étaient loin de la mer, comme tous les Hata admirés, les gouverneurs eux-mêmes étaient partis à la recherche du corps mort, en réquisitionnant tous les bateaux qu'ils avaient pu trouver. Brusquement, la seule colline non labourée attira l'attention de Timna. Émergeant du sol, une grande main de pierre tenait une sphère au moins aussi grosse qu'une maison. Une boule brillante comme un soleil de plein été. Oubliant les Hata admirés, Timna s'assit en tailleur sur le sol, tira sur les pans de son manteau et sourit. Ravie de penser qu'elle assistait peut-être à la réalisation de la prophétie et à la fin de l'illusion.
« Si tu fais vraiment partie des élus, je te servirai. »
le type barbu assis en face de Sindane ne sembla pas convaincu. Distraite, elle n'entendit même pas la suite de sa tirade. Elle sentait que quelque chose était en cours. Tant de Saïdar puisés en un seul endroit, c'était un phare que toute femme capable de canaliser, où qu'elle fût dans le monde, pouvait sentir et localiser. Ainsi, il avait trouvé une femme pour utiliser la seconde clé d'accès. Avec lui, elle aurait défié le grand seigneur des ténèbres, et même le créateur. Avec lui, elle aurait partagé le pouvoir, le laissant régner à ses côtés. Mais il l'avait rejeté. Oui, il n'avait plus voulu de son amour. L'homme qui parlait à Sindane était un crétin important. En ce monde, on en trouvait 13 à la douzaine, mais elle n'avait pas le temps de vérifier sa fiabilité. Et en l'absence de certitude, impossible de le laisser continuer à jacasser, pas alors qu'elle sentait la main de Moridine caresser le coursouvrat qui retenait son âme. Un flux d'air tranchant comme un rasoir décapita le type, coupant sa barbe en deux au passage. Un autre flux fit basculer le cadavre en arrière, histoire que le sang ne tache pas la robe de Sindane. Avant que sa victime se soit écrasée sur le sol, elle eut fini de tisser son portail. Un phare qu'elle n'avait aucun mal à localiser l'appelait. Déboulant dans une forêt au sol couvert de neige et aux arbres dénudés, n'étaient les épaisses lianes qui s'y attachaient encore, elle se demanda où ce phare l'avait entraînée. Pour l'heure, il brillait de tous ses feux au sud de sa position. Assez de Saïdar pour dévaster en un clin d'œil un continent. Il serait là, avec la femme pour laquelle il l'avait trahi. Prudemment, Sindane puisa dans la source assez de pouvoir pour tisser une toile de mort. Sa toile de mort. Dans le ciel sans nuages, des éclairs scintillaient. Des éclairs comme Katsuane n'en avait jamais vu, pas fragmentés, mais tout droits, comme des lances de lumière. Ces dards de feu s'abattaient sur le sommet de la colline, heureusement protégés par un champ de force. Même avec cette défense tissée par la légende en personne, le vacarme était assourdissant. Et l'air crépitait partout, y compris à l'intérieur du champ de force. Sans l'aide de l'angréal en forme d'oiseau, une pie peut-être, accrochée dans son chignon, Katsuane n'aurait sûrement pas pu maintenir son bouclier défensif. Un autre oiseau en or, une hirondelle celui-là, pendait à un bout de la fine chaîne qu'elle serrait entre ses doigts.
« Par là !»
dit-elle, en désignant la direction que l'hirondelle semblait vouloir emprunter. Hélas, Katsuane n'aurait su dire à quelle distance de là on venait de canaliser le pouvoir. Impossible aussi de dire si c'était l'œuvre d'un homme ou d'une femme. Eh bien, la direction seule devrait suffire, en espérant qu'il n'y aurait pas de problème. Là-bas, il y avait aussi des gens à elle. Si l'avertissement arrivait en même temps qu'une attaque, il ne pourrait plus y avoir de doute. Dès que Katsuane eut refermé la bouche, après avoir prononcé son « par là », un geyser de flammes jaillit dans la forêt, au nord, vite suivi par plusieurs autres. Une sorte de ligne de feu qui se ruait vers le nord. Entre les mains du jeune Jahar, Kalendor brillait comme un incendie. Des tailles bizarres, si on en jugeait par la concentration d'Elsa, les poings serrés sur le devant de sa robe, c'était elle qui contrôlait ses flux. Mérise saisit à pleine main les cheveux de Jahar et lui secoua doucement la tête.
« Du calme, mon mignon. Doucement, mon puissant et bien-aimé petit. »
Le jeune homme eut un sourire béat. Katsuane hocha imperceptiblement la tête. Comprendre la relation entre Aes Sedai et son champion n'était jamais facile. Alors quand il s'agissait d'une sœur verte, comment avoir la moindre idée de ce qui se passait entre Mérise et ses mignons? Mais Katsuane s'intéressait surtout à un autre garçon. Alors que Ninevé se laissait emporter par l'extase, un tel flot de Saïdar en soi, Rand ne bronchait pas, même si son visage ruisselait de sueur. Quant à ses yeux, il faisait penser à des saphirs polis. Avait-il seulement conscience de ce qui se passait autour de lui? Au bout de sa chaîne, l'hirondelle s'orienta dans une autre direction.
« Par là !»
dit Katsuane, en désignant les ruines de Shadar-Logoth. Rand ne parvenait plus à voir Ninevé. À vrai dire, il ne voyait et ne sentait plus rien. Nageant dans des mers de flammes et escaladant des montagnes de glace qui s'écroulaient sous lui, il luttait sans cesse contre la souillure, marée descendante qui s'acharnait à l'entraîner au large avec elle. S'il relâchait son contrôle un instant, tout ce qui faisait sa personne lui serait arraché et finirait dans le conduit, aspiré vers le néant. Tout aussi grave, voire pire encore, malgré le torrent de pourriture que charriait cette marée via le cœur d'une étrange fleur de feu et de glace, la quantité de souillure, dans la partie masculine de la source, ne semblait pas vouloir diminuer. On eût dit une nappe d'huile à la surface de l'eau, si fine qu'on ne la remarquait pas avant de la toucher du bout d'un doigt. Mais cette pellicule recouvrait l'immensité de la moitié mâle du pouvoir. En d'autres termes, elle était un océan sur l'océan. Rand devait tenir, Certes, mais jusqu'à quand? Combien de temps un homme pouvait-il tenir? S'il réussissait à défaire ce qu'Altor avait fait à la source, pensa Demandred, en franchissant son portail pour entrer dans Shadar-Logoth, surtout s'il parvenait à frapper durement et par surprise, ça pouvait tout à fait tuer son adversaire. Ou au moins détruire à tout jamais son aptitude à canaliser le pouvoir. Dès qu'il avait compris où était la clé d'accès, Demandred avait deviné le plan d'Altor. Un plan brillant, il en convenait, et terriblement dangereux. Mais après tout, Loustérine avait toujours été un bon stratège, même si on l'avait toujours largement surestimé. En tout cas, il n'était jamais arrivé au niveau de Demandred. Un seul coup d'œil dans la rue jonchée de ruines dissuada l'élu de modifier quoi que ce soit. Près de lui se dressait la moitié d'un dôme très clair, dont le toit culminait à plus de 200 pieds de hauteur. Au-dessus, le soleil du milieu de matinée brillait faiblement, comme il convenait en hiver. Mais entre le toit défoncé du dôme et la rue, la pénombre régnait, comme s'il faisait déjà nuit. La cité frissonnait. Demandred le sentait sous ses bottes. Dans la forêt environnante, des colonnes de feu jaillirent. Arrachées par des explosions, l'action du Saïdin, des arbres furent propulsés dans le ciel et certains, en flammes, fondirent sur l'élu. Tissant promptement un portail, il le traversa, le laissa se dissiper, puis courut aussi vite que possible entre les arbres lestés de lianes. Alors qu'il s'enfonçait dans la neige et trébuchait sur des grosses pierres cachées dessous, il ne ralentit pas, surtout pas. Le champ de force avait été inversé, une saine précaution, mais il en allait de même avec le premier. Et Demandred avait été soldat. Alors qu'il continuait à courir, il entendit les explosions qu'il anticipait et devina qu'elles visaient l'endroit où avait été son portail, exactement comme les premières l'avaient pris pour cible au milieu des ruines. À présent, il en était assez loin pour qu'elle ne représente plus aucun danger. Encore sans ralentir, il tourna la tête en direction de la clé d'accès. Avec la quantité de Saïdine qui s'y déversait, il aurait tout aussi bien pu y avoir dans le ciel une flèche indiquant la position d'Altor. Très bien. Sauf si quelqu'un dans ce maudit âge avait redécouvert un autre don perdu, Altor devait s'être procuré un terrain gréal capable de localiser un homme en train de manier le pouvoir. D'après ce que savait Demandred de ce que les gens nommaient aujourd'hui la dislocation, un événement postérieur à son emprisonnement dans le mont Shagelghoul, chaque femme en mesure de fabriquer des terrains gréal rêvait d'en créer un apte à remplir cette fonction. Lors d'une guerre, le camp ennemi vous réservait toujours des surprises. Et il fallait savoir y répondre. À ce jeu, Demandred avait toujours été bon. Mais d'abord, il lui fallait s'approcher. Soudain, à travers les arbres, il aperçut des gens devant lui et se plaqua derrière un grand tronc gris. Un vieux type au crâne luisant, entouré d'une couronne de cheveux blancs, avançait en boitillant entre deux femmes, l'une d'une beauté sauvage et l'autre carrément à couper le souffle. Que faisait ce trio dans la forêt? Et de qui s'agissait-il? Des amis d'Altor ou des gens qui se trouvaient au mauvais endroit au pire moment possible? Dans tous les cas, Demandred n'était pas chaud pour les tuer, car utiliser le pouvoir signalerait sa position à Altor. Donc, mieux valait laisser passer ces fâcheux. La tête tournée, le vieux type semblait chercher quelque chose parmi les arbres. Mais à son âge et dans son état, il ne devait pas avoir une vue perçante. Sans crier gare, le vieillard s'immobilisa et tendit une main en direction de Demandred. Contre toute attente, celui-ci dut lutter frénétiquement contre un réseau de Saïdine, qui percuta son bouclier avec une force inattendue, équivalente à celle qu'aurait eu un de ses propres tissages. Le vieux gâteux était un achaman, et une des femmes au moins, ce qui passait pour une Aes Sedai dans cet âge pathétique. En plus de tout, elle formait un cercle avec le vieillard. Demandred tenta de contre-attaquer et de réduire en miettes ses adversaires, mais l'achaman le bombarda sans relâche. Il dut se concentrer sur ses défenses. Autour de lui, des arbres s'embrasèrent ou explosèrent. Demandred était un très grand général. Mais les généraux, en principe, ne combattaient pas avec les hommes du rang. Lâchant un grognement, il entreprit de battre en retraite. Loin de la clé. Mais tôt ou tard, le vieil homme fatiguerait. Alors viendrait le moment de tuer Altor. À condition qu'aucun des autres élus ne lui soit tombé dessus avant, ce qu'il fallait espérer ardemment. Les jupes relevées jusqu'aux genoux, Sindane lâcha une bordée de jurons, et dès qu'elle l'eut franchie, s'éloigna au pas de course de son troisième portail. Entendant les explosions qui se rapprochaient du site, elle comprit enfin pourquoi elle fondait sur elle. Comme elle détestait les forêts. Surtout sous la neige, avec ses pierres et ses racines cachées, dans lesquelles on se prenait si aisément les pieds. Au moins, elle n'était pas la seule élue sur les lieux. Autour d'elle, mais assez loin, des geysers de flammes ne la visaient pas. En plusieurs endroits, des femmes tissaient rageusement le Saïdar. Mais avec un peu de chance, elle serait la première à atteindre l'Oustérine. Pour le voir mourir, bien entendu. Et pour ça, elle devrait être très près de lui. Recroquevillée derrière un tronc abattu, Ossangar était à bout de souffle. Les mois passés sous l'identité de Corlan Dashiva ne lui avaient pas redonné l'amour de l'exercice physique. Les explosions qui avaient failli le tuer cessèrent, puis recommencèrent dans le lointain. Prudent, il leva la tête, juste ce qu'il fallait pour voir au-dessus de son tronc. Non qu'il tînt un morceau de bois pour une protection, mais... Eh bien, il n'avait jamais été un vrai soldat. Son talent, voire son génie, était ailleurs. Par exemple, dans la création des Trollocs, et subséquemment d'Amir Draal. Puis d'innombrables monstres qui avaient dévasté le monde et rendu son nom universellement célèbre. La clé d'accès était gorgée de Saïdin. Mais il y en avait aussi ailleurs, en plus petite quantité. Ossangar avait parié que d'autres élus seraient là avant lui, et espéré qu'ils en auraient terminé avant son arrivée. Visiblement, ce n'était pas le cas. À l'évidence, Altor avait des achamans avec lui, plus qu'Alandor, si on se fie à la charge en Saïdin des explosions. Et peut-être quelques-unes de ses Aes Sedai apprivoisées. Enfin, soi-disant Aes Sedai. L'élu s'aplatit de nouveau et se mordilla la lèvre inférieure. Bien plus dangereuse qu'il l'aurait cru, cette forêt n'était vraiment pas un endroit pour un génie. Cela dit, inutile de nier que Moridin le terrorisait. Depuis le début, il fallait bien le reconnaître. Avant même qu'il soit emprisonné dans la brèche, ce type était ivre de pouvoir. Et depuis leur libération, il semblait se prendre pour le grand seigneur en personne. Si Ossangar s'enfuyait, Moridin le saurait et il le tuerait. Pire encore, si la manœuvre du dragon réussissait, le grand seigneur pouvait décider d'en finir avec Moridin, avec Altor et avec lui. Que ces crétins crèvent ne lui faisait ni chaud ni froid. En revanche, il tenait à sa peau. Même si déterminer l'heure à partir de la position du soleil n'était pas son fort, il estima qu'il était un peu avant midi. Se relevant, il épousta ses vêtements, une tâche hors de portée d'un être normal, puis se faufila d'arbre en arbre, avec ce qu'il tenait pour le summum de la furtivité. Direction la clé. Un des autres achèverait peut-être Altor avant qu'il soit à destination. Sinon, il aurait peut-être l'occasion de devenir un héros, prudemment, bien entendu. Vérine fronça les sourcils lorsqu'elle vit l'apparition qui se faufilait entre les arbres sur sa gauche. Apparition ? Quel autre mot pour une femme qui traversait la forêt lestée de bijoux et vêtue d'une robe qui passait par toutes les couleurs existantes et devenait même par moments transparente ? Sans se presser, l'excentrique personne se dirigeait vers la colline où était Rand. Sauf si Vérine se trompait lourdement, il s'agissait d'une rejetée.
« Tu vas te contenter de la regarder ?»
murmura Chalonne, furieuse. Elle était hors d'elle parce qu'on n'avait pas choisi pour fusionner les flux. Comme si la puissance du naturel avait la moindre valeur aux yeux des Aes Sedai. Des heures à patauger dans la neige n'avaient pas amélioré son humeur.
« Nous devons faire quelque chose !»
dit Kumira.
« Exact !»
maugréa Vérine.
« J'essaie seulement de savoir quoi. »
« Un bouclier, » décida-t-elle. Prisonnière, une rejetée pouvait se révéler très utile. Recourant à toute la puissance de son cercle, Vérine tissa son bouclier, le propulsa, et, horrifié, le vit rebondir contre sa cible. Sans qu'une aura l'enveloppe, la femme blonde, incroyablement puissante, s'unit à la source. Quand elle commença à canaliser, Vérine n'eut plus le loisir de se poser des questions. Même si elle ne voyait pas les tissages, elle savait reconnaître une attaque, surtout quand sa vie était en jeu. Et elle en avait trop fait pour crever bêtement ici. Ébène resserra les pans de son manteau autour de son torse. Pour ignorer le froid, il y avait beaucoup plus doué que lui. Contre un simple mauvais temps, il savait se défendre. Mais face au vent, qui se déchaînait depuis que le soleil avait dépassé son zénith, il était impuissant. En revanche, les trois sœurs liées avec lui semblaient s'en moquer comme d'une guigne. Deigian dirigeait le cercle, à cause de sa présence, pensait-il. Mais elle puisait si peu de pouvoir qu'il sentait à peine un filet de Saïdin circuler en lui. Tant qu'elle n'y serait pas obligée, la sœur éviterait d'affronter la situation. Ébène remonta la capuche de la sœur, qui sourit pour le remercier. Dans le lien, il sentait l'affection qu'elle éprouvait pour lui, et ça devait être réciproque. Avec le temps, il se voyait très bien aimer cette petite Aes Sedai. Le torrent de Saïdin qui bouillonnait loin derrière lui avait tendance à occulter toutes les autres manifestations du pouvoir. Mais en se concentrant, il sentait que d'autres personnes le canalisaient. Pendant que ses trois compagnes et lui se contentaient de marcher, des gens s'étaient joints à la bataille. Rien qui pût le complexer, cela dit. Présent au puits de Doumaï, il avait aussi affronté les Séanchaniens. Deux bonnes occasions d'apprendre que les batailles étaient beaucoup plus drôles dans un livre que sur le terrain. Pourtant, quelque chose l'agaçait. Ne pas avoir été chargé de diriger le cercle. Jahar n'avait pas eu non plus cet honneur. Mais Mériz, aurait-il parié, s'amusait sûrement à lui demander de faire tenir un biscuit en équilibre sur son nez. Cela dit, Damer, lui, avait reçu le commandement de son cercle. Tout ça parce que ce type avait quelques années de plus que lui. Enfin, quelques, c'était une façon de parler. En réalité, Damer était plus vieux que le père d'Ébène. Pas une raison pour que Katsuane le regarde comme
« Pouvez-vous m'aider ? J'ai perdu mon cheval. Et il semble bien que je me sois égaré. »
La femme qui venait de sortir de derrière un arbre devant eux ne portait pas de manteau. En robe de soie verte au décolleté vertigineux, elle exposait une bonne partie de son opulente poitrine. Brune, le visage délicat, elle avait surtout des yeux verts étincelants.
« Un endroit étrange pour se promener à cheval, »
dit Beldaine, soupçonneuse. La jolie sœur verte avait détesté que Katsuane confie à Deigian la responsabilité du cercle. Depuis, elle ne manquait pas une occasion de contester son autorité.
« Je n'avais pas l'intention d'aller si loin, »
dit la femme en approchant.
« Je vois que vous êtes toutes des Aes Sedai, avec un palefrenier. Vous savez ce qui se passe ici ?»
Ébène sentit tout le sang se retirer de son visage. Ce qu'il captait n'avait pas de sens. Alors que la femme aux yeux verts plissait le front, aussi surprise que lui, il fit la seule chose qui s'imposait.
« Elle canalise le pouvoir !»
cria-t-il. Puis il bondit sur l'inconnu. Derrière lui, Deigian puisa davantage de pouvoir dans la source. Sindane ralentit dès qu'elle vit la femme debout entre les arbres, à une centaine de mètres devant elle. Sans bouger, la grande blonde la regarda simplement approcher. Sentir qu'on livrait bataille avec le pouvoir un peu partout autour d'elle inquiéta Sindane. En même temps, ça lui donna de l'espoir. La femme portait une simple robe de laine. Bizarrement, elle était bardée de bijoux, comme une grande dame. Grâce au Saïdar, Sindane distingua très bien les petites rides au coin des yeux de l'inconnu. Donc, elle ne faisait pas partie des crétines qui pensaient être des Aes Sedai. Dans ce cas, qui était-elle? Et pourquoi semblait-elle décidée à barrer le chemin à Sindane? Aucune importance. Canaliser le pouvoir maintenant aurait trahi Sindane. Mais pourquoi se précipiter? Au loin, la clé brillait toujours comme un phare. Loustérin n'était pas mort. Malgré le regard féroce de la femme, si elle insistait, un bon vieux couteau suffirait à lui régler son compte. Et s'il s'agissait d'une naturelle, Sindane était en train de lui préparer un petit cadeau. Un tissage inversé qu'elle ne verrait pas avant qu'il soit trop tard. Soudain, l'aura du Saïdar enveloppa la femme. La boule de feu déjà invoquée jaillit des mains de Sindane, assez petite pour échapper à toute détection, espéra-t-elle, mais pas au point d'être incapable de percer dans le ventre de cette brune un trou qui... Juste avant d'atteindre sa cible, le tissage de feu se défit et disparut. La femme n'avait pourtant rien fait pour ça. Un terrain gréal capable de neutraliser un tissage de feu? Sindane n'avait jamais entendu parler d'une chose pareille. Pourtant, ça ne pouvait être que ça. Quand la femme riposta, Sindane en resta bouche bée. Cette inconnue était plus puissante qu'elle avant sa captivité chez les Aelfines et les Elfines. Mais c'était impossible. Aucune femme ne pouvait être si puissante. Elle aussi, elle devait avoir un angréal. Sa stupéfaction surmontée, Sindane coupa net les flux de l'inconnu. Hélas, elle ignorait comment les inverser, mais ça suffirait peut-être. Et dans ce cas, elle assisterait bel et bien à la mort de Loustérine. La femme sursauta quand ses flux lui revinrent dessus. Pourtant, même déséquilibrée, elle canalisa de nouveau le pouvoir. Sindane continua à lutter, et la terre trembla sous ses pieds. Elle verrait Loustérine crever. Oui, elle le verrait. Le sommet de la haute colline où se tenait Moghedien n'était pas très proche de la clé d'accès. Pourtant, celle-ci brillait si fort dans la tête de l'élu qu'elle mourait d'envie de s'abreuver à ce formidable torrent de Saïdar. En contrôler autant, ou même le millième de cette quantité, était le summum de l'extase. Oui, Moghedien crevait de soif, mais elle ne s'aventurerait pas au-delà de ce point d'observation, fort opportunément boisé. Si elle avait voyagé jusque-là, c'était uniquement à cause des mains de Moridine, posées sur son coursouvrat. Malgré ça, elle avait traîné les pieds pour venir, avec l'espoir que tout serait fini quand elle arriverait. Alors qu'elle privilégiait les machinations secrètes, elle avait dû fuir devant une attaque dès qu'elle avait posé un pied ici. Depuis, dans la forêt qui s'étendait à ses pieds, des éclairs et des colonnes de flammes jaillissaient un peu partout, des tissages de Saïdar, mais aussi de Saïdin, ce qui n'avait rien de rassurant. De la fumée noire montait de tous ces sites, et les explosions perçaient les tympans de l'élu. Qui se battait, vivait et mourait ici? En toute franchise, elle s'en contrefichait. Sauf si Sindane ou Grendal, voire les deux, y laissaient leur peau. Quant à elle, pas question qu'elle déboule au milieu d'une bataille. Surtout avec ce qui se dressait au-delà de la clé, un grand dôme noir au milieu de la forêt. Comme si l'obscurité s'était transformée en pierre. Mogadien frissonna lorsqu'une onde parcourut la surface noire, faisant se soulever le dôme comme s'il était vivant. Pour approcher de cette horreur, quoi qu'elle fût, il fallait être fou. Et Moridine ne pourrait pas savoir ce qu'elle ferait ou ne ferait pas ici. Battant en retraite au cœur des ombres, loin de la cité et du dôme, Mogadien s'assit pour faire ce qui lui réussissait si bien. Se tapir dans l'ombre, observer et survivre. Dans sa tête, Rand criait. Il en était sûr. Et il aurait juré que Loustérine criait aussi. Mais dans ce vacarme, impossible d'entendre l'une ou l'autre voix. Comme un océan de putréfaction, la souillure se déversait en lui en rugissant. Des vagues répugnantes venaient se briser contre lui, et des cyclones d'immondices tentaient de l'emporter. Sans la souillure, il n'aurait même plus eu conscience d'être connecté à la source. Le Saïdi n'aurait pu se retourner contre lui, prêt à le tuer, et il n'en aurait rien su. Ce flot putride submergeait tout, et il devait s'accrocher avec les ongles pour ne pas se laisser entraîner. La souillure dérivait, et c'était tout ce qui comptait. Quant à lui, il devait tenir.
Que peux-tu me dire, Min?
Malgré sa fatigue, Katsuane réussissait à rester debout. Maintenir ce bouclier une journée durant aurait suffi à épuiser n'importe qui. Depuis un moment, il n'y avait plus eu d'attaque visant le sommet de la colline. La seule activité perceptible en matière de pouvoir, c'était ce que Ninevé et le garçon étaient en train de faire. Toujours liée à Mériz et à Jahar, Elsa marchait en rond le long du vide, mais elle devait se contenter de sonder les collines environnantes. Jahar s'était assis sur un rocher, Kalandor encore faiblement brillante au creux d'un bras. Installée sur le sol, Mériz avait posé la tête sur ses genoux et il lui caressait les cheveux.
« Alors, Min ?»
insista Katsuane. Dans la légère dépression rocheuse, où Thomas et Moad les avaient poussés de force, Arin et elle, Min leva des yeux pleins de colère. Les hommes, au moins, avaient eu l'intelligence d'accepter le fait qu'ils ne pouvaient pas participer à cette bataille. Arin, en revanche, avait la fumée qui lui sortait des naseaux. Quant à Min, il avait fallu l'empêcher plusieurs fois d'aller rejoindre le jeune Altor. Pour plus de sécurité, Thomas et Moad l'avaient délaissé de ses couteaux, après qu'elle les eut menacés avec.
« Je sais qu'il est vivant, »
marmonna Min.
« Et je crois qu'il souffre. Mais si je peux sentir sa douleur, c'est qu'il doit être déchiqueté de l'intérieur. Laissez-moi le rejoindre.
Non, tu le gênerais. »
Ignorant le grognement rageur de Min, Katsuane traversa le sol inégal pour approcher de Rand et de Ninevé. Un long moment durant, elle ne les regarda pas. Même à des lieues de distance, le dôme noir semblait immense, plus de 1000 pieds de haut à son sommet. Et il grossissait encore. De loin, on eût dit qu'il était en acier noir, même s'il ne brillait pas au soleil. Bien au contraire, la lumière semblait pâlir à son contact. Depuis le début, Rand n'avait pas bougé, statue imperturbable, au visage pourtant ruisselant de sueur. S'il était déchiqueté de l'intérieur, comme le prétendait Min, il n'en montrait aucun signe. Et si la jeune femme avait raison, Katsuane ignorait que faire. Le déranger en ce moment pouvait avoir de terribles conséquences. Katsuane regarda de nouveau le dôme et frissonna. L'avoir laissé faire risquait aussi d'avoir des conséquences dévastatrices. Avec un gémissement, Ninevé se laissa glisser de son banc de pierre pour s'asseoir sur le sol. Sa robe imbibée de sueur, elle avait les cheveux collés sur le front. Le souffle court, elle haletait, et ses paupières battaient faiblement.
« Ça suffit, »
gémit-elle.
« J'en ai assez. »
Contrairement à ses habitudes, Katsuane hésita. La jeune femme ne pouvait pas quitter le cercle avant qu'Altor la libère. Cela dit, sauf si les Choedan Kal étaient défectueux à la façon de Kalandor, une sorte de garde-fou l'empêcherait d'absorber assez de pouvoir pour se faire du mal. N'était qu'elle tenait lieu de vaisseau à une quantité de Saïdar de très loin supérieure à celle que toutes les Aes Sedai réunies auraient pu gérer avec l'aide de l'ensemble des Angréales et des Saangréales dont disposait la Tour Blanche. Après un tel effort prolongé pendant des heures, Nineveh pouvait simplement mourir d'épuisement. S'agenouillant près de la jeune femme, Katsuane posa l'hirondelle en or près d'elle, lui prit la tête entre les mains et injecta un peu moins de saïdar dans le bouclier. En matière de guérison, elle était tout juste dans la moyenne, mais ça suffirait pour soulager Nineveh d'une partie de sa fatigue, sans risquer de se vider elle-même de son énergie. Consciente que le bouclier faiblissait déjà au-dessus de leur tête, la légende se hâta de tisser sa toile de guérison. Quand il eut péniblement grimpé jusqu'au sommet de la colline, Osangar se laissa tomber sur le ventre et sourit. Puis il rampa latéralement pour se cacher derrière un arbre. De là, empli de saïdin, il pourrait voir clairement le haut de la colline d'en face et les gens qui s'y trouvaient. Moins nombreux qu'il l'aurait cru. Et alors qu'une femme marchait en rond, longeant le vide, toutes les autres personnes étaient immobiles. Assis sur un rocher, Kalandor au creux d'un bras, Narishma caressait la tête qu'une femme avait posée sur ses genoux. Osangar vit deux autres femmes, l'une agenouillée près de l'autre, mais le dos d'un homme la lui cachait à demi. Sans distinguer le visage du type, il sut que c'était Altor. À cause de la clé qui reposait à ses pieds, bien entendu, et qui brillait comme un soleil. Pour ses yeux, en tout cas. Dans sa tête, c'était plutôt comme 10 000 soleils. Avec une telle puissance, quels exploits il aurait pu accomplir? Hélas, l'artefact devrait être détruit en même temps qu'Altor. Mais après sa mort, Osangar pourrait au moins récupérer Kalandor. Parmi les élus, aucun ne possédait ne serait-ce qu'un Angréal. S'il brandissait l'épée de cristal, Moradin lui-même serait contraint de plier devant lui. Naeblis? Après avoir tué Altor et ruiné son œuvre, Osangar serait-il nommé Naeblis? Avec un rictus mauvais, il tissa des torrents de feu. Qui aurait cru que ce serait lui, au bout du compte, le héros du jour? Alors qu'elle continuait à faire sa ronde à pas lents, sondant les collines environnantes, Elsa s'immobilisa, car elle venait de capter un mouvement du coin de l'œil. Elle tourna la tête sans se précipiter, ni aller jusqu'à fixer la colline où elle avait vu une sorte d'éclair. Une journée très difficile pour elle. Lors de sa captivité dans le camp des Aiel, à Caerienne, elle avait compris qu'il fallait à n'importe quel prix que le dragon réincarné vive jusqu'à l'ultime bataille. Éblouie par cette évidence, elle s'était étonnée qu'elle ne lui soit pas apparue avant. Désormais, c'était aussi clair, grâce à l'effet du saïdar sur sa vision, que le visage de l'homme caché derrière un arbre, sur la colline d'en face. Aujourd'hui, elle avait été obligée d'affronter les élus. Si elle en avait tué un, le grand seigneur la pardonnerait sûrement. Mais Corlan Dashiva n'était qu'un achaman parmi tant d'autres. Quand il tendit un bras en direction d'Elsa, elle puisa autant de pouvoir que possible dans Kalandor, toujours en possession de Jahar. Le Saïdin n'était-il pas idéal pour la destruction? Sur la colline d'en face, la boule de feu que la sœur venait de propulser explosa en un geyser de flammes rouges et or. Quand les flammes moururent, il ne restait rien en haut de cette colline, désormais plus basse qu'avant d'une bonne quinzaine de pieds. Mogadienne n'aurait su dire pourquoi elle s'était attardée si longtemps. Alors qu'il restait à peine 2 heures de jour, un grand calme régnait. À part autour de la clé, on ne canalisait plus de saïdar dans les environs. Pas dans des proportions monstrueuses en tout cas, comme un peu plus tôt. La bataille terminée, les autres élus étaient morts ou bien en fuite. Une vraie déroute, puisque la clé brillait toujours dans la tête de Mogadienne. Comment les Chouedankal avaient-ils pu résister à une utilisation si prolongée au maximum de leur puissance? Étendue à plat ventre au sommet de sa colline, le menton sur les mains, Mogadienne observait le dôme géant. Noir n'était plus un adjectif adapté désormais. Mais comment qualifier quelque chose de plus obscur que la nuit? L'énorme demi-sphère culminait désormais à plus de 2000 pieds de hauteur. Des ombres l'enveloppaient, absorbant le peu de lumière qu'il restait autour. Mogadienne se demanda pourquoi elle n'avait pas peur. Cette horreur pouvait grandir jusqu'à ce qu'elle recouvre le monde, ou qu'elle l'écrabouille, ainsi qu'Arangar l'avait prédit. Mais si ça se produisait, il n'y aurait aucun endroit sûr où se cacher. Plus de toile où l'araignée pourrait se tapir. Soudain, quelque chose se détacha de la surface noire. Une flamme, peut-être, si le feu avait pu être plus obscur que les ténèbres. Une autre suivit, puis une multitude d'autres, jusqu'à ce que le dôme s'embrase. Le roulement simultané de dizaines de milliers d'orages contraignit Mogadienne à se plaquer les mains sur les oreilles. Puis elle cria, en silence dans ce vacarme, tandis que le dôme s'écroulait sous ses yeux. En un éclair, il n'y eut plus rien, le vent devenu fou balayant une plaine déserte. Sur sa colline, Mogadienne dut s'accrocher au sol pour ne pas être emporté par les bourrasques. Finalement soulevée dans les airs, elle se laissa aller, toujours aussi calme et détachée. Si elle survivait à ça, se dit-elle, la peur lui deviendrait à jamais étrangère. Katsuane laissa tomber sur le sol ce qui restait d'un terrain gréal. Une statue de femme, cet objet ? Si le visage n'avait pas changé, toujours serein, le corps était cassé en deux et boursouflé, comme s'il avait fondu tel de la cire. Le bras qui tenait la sphère de cristal, lui, gisait en miettes sur le sol. La statuette masculine était intacte et déjà rangée dans la sacoche de sel de Katsuane. Kalandor aussi était en sécurité. Au sommet de cette colline, mieux valait ne laisser aucune tentation. À la place de Shadar Logoth, une vaste clairière parfaitement ronde s'étendait au milieu de la forêt. Si large qu'on pouvait voir, même au crépuscule, sa partie la plus lointaine s'enfonçait en pente douce dans la terre. Dès qu'il aperçut Nineveh étendue sur le sol, couverte jusqu'au menton par son manteau, l'âne lâcha la bride de son destrier noir et acheva l'ascension au pas de course. Enveloppé dans son manteau, le jeune Altor reposait près de son ami. Mine serrée contre lui, la tête sur son épaule. Les yeux fermés, la jeune femme ne dormait pas. C'était visible à son petit sourire. Avec à peine un regard pour les deux jeunes gens, l'âne s'agenouilla et prit entre ses bras la tête de sa femme, qui ne bougeait pas plus que Rande.
« Ils ont perdu connaissance, c'est tout, » dit Katsuane. « Selon Corel, il vaut mieux les laisser se remettre tout seuls. »
En combien de temps, la sœur avait été incapable de le dire. Même chose pour Dameur. Sur le flanc du garçon, les blessures n'avaient pas changé. Ce qui étonnait la chamane. Tout ça était vraiment très perturbant. Un peu plus loin, la chamane chauve, penchée sur Beldane, tissait au-dessus d'elle les arabesques de son étrange protocole thérapeutique. Depuis une heure, l'homme était des plus occupés. Dans son coin, Alivia, émerveillée, ne cessait de fléchir son bras, encore cassé et ouvert jusqu'à l'os quelques minutes plus tôt. Si sa reine titubait, c'était seulement de fatigue. Un peu plus tôt, elle avait failli mourir dans la forêt, et elle restait en état de choc. Les sœurs blanches n'étaient pas taillées pour ces choses-là. Tout le monde n'avait pas eu autant de chance. Près du cadavre couvert d'un manteau de Kumira, Vérine et Lata Nyeré priaient en silence pour le repos de son âme. Non loin de là, Nessuné tentait maladroitement de réconforter des Yannes, en pleurs, qui serraient dans ses bras le corps sans vie d'ébène et le berçaient comme un bébé. Les sœurs vertes avaient l'habitude des drames de ce genre, mais Katsuane détestait l'idée d'avoir perdu deux des siens en échange de quelques rejetés aux sourcils roussis et d'un renégat mort.
« C'est purifié, » dit une nouvelle fois Jahar.
Désormais, Mérise était assise, et c'était lui qui avait posé la tête sur ses genoux. Le regard aussi froid que d'habitude, l'austère sœur caressait néanmoins les cheveux du champion.
« Oui, c'est purifié. »
Katsuane chercha le regard de Mérise. Dameur et Jahar affirmaient tous les deux que la souillure avait disparu. Mais comment pouvait-il être sûr qu'il n'en restait pas un peu ? Mérise avait autorisé Katsuane à se lier avec Jahar, et la légende ne captait rien de comparable à ce que l'autre sœur verte lui avait décrit. Mais comment pouvait-il être certain ? Chaos aberrant, le Saïdine leur était si étranger que n'importe quoi pouvait s'y tapir.
« Je veux partir dès que les autres champions seront revenus, »
annonça Katsuane. À son goût, il restait bien trop de questions sans réponse. Mais elle tenait le jeune Altor désormais, et elle n'avait aucune intention de le lâcher. À la nuit tombée, le vent soufflait toujours, projetant de la poussière sur les restes de ce qui avait été un terrain gréal. Plus loin, dans la forêt, s'étendait la tombe de Shadar Logoth, creusée pour redonner espoir au monde. Sur la distante île de Tremalking, une rumeur naquit et commença à se propager. « Le temps des illusions, » affirmait-elle, « venait de s'achever. » Vous venez d'écouter « La roue du temps », tome 9, « Le cœur de l'hiver », de Robert Jordan, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Arnaud Leridan. Une production Audible Studios.